Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
Hissez la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Take that out.
Tout le monde est à son poste.
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'info de Radio Campus Angers.
Miliband, Cameron, en termes de suspense insoutenable, les Britanniques nous en font décidément baver depuis une semaine entre le sexe du Royal Baby, son prénom et forcément, maintenant presque aussi important, la couleur de son Parlement. Travailliste ou conservateur, on saura ça ce soir vers 23h, heure à laquelle on connaîtra aussi les résultats de UKIP de Nigel Farage. UKIP, c'est ce parti qui préférerait voir la Grande-Bretagne encore plus détachée de l'Europe que par la Manche. Pendant la campagne des élections européennes, UKIP avait parsemé le pays d'affiches monstres scandant. 26 millions de personnes en Europe cherchent du travail. Et quels emplois veulent-ils prendre? Une campagne qui visait à mieux faire passer la grande idée de Nigel Farage, fermer les frontières et mettre en place un permis d'immigration à point. Avec 27,5% des voix aux européennes, UKIP avait battu les conservateurs et les travaillistes, mais avait ensuite refusé de faire ami-ami avec Marine Le Pen, arguant. Le Front National traîne un bagage, un passé, des gens. Ses racines antisémites et racistes sont profondes. Je préfère Nicolas Dupont-Aignan. Pour les élections générales du jour, les sondages créditent le parti europhobe de 13% des voix. Tout le monde ferait bien de vérifier ce soir quel est son résultat définitif, histoire de prendre le pouls d'une Europe gangrénée par une xénophobie qui dit de plus en plus son nom.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, nous recevrons Sébastien Rousselet. Il viendra nous présenter un tout nouveau festival, le festival Clap, qui aura lieu dans une dizaine de jours à Rabelais-sur-Layon. Mais d'abord, voilà quelqu'un qui fait parler un fantôme, qui fait parler les archives, des archives sur lesquelles il est tombé par accident, à moins que quelqu'un croie au destin.
Je vous présente Boris de Vinogradov qui représente les trois choses que j'aime le plus au monde. La musique, Paris, et la Géorgie, sans oublier la percussion. Gentil, n'est-ce pas? Je vais te quitter, car je pars voir Chinatown. Je passe mes jours en répétition et mes nuits en boîte de nuit. Baiser, Boris.
Extrait d'une lettre signée de ce mystérieux Boris, mis en voix par la radio-télévision suisse en septembre dernier dans l'émission Musique en mémoire. Bonsoir Julien Sirjac.
Bonsoir.
Vous êtes artiste peintre, plasticien, professeur à l'École supérieure des beaux-arts d'Angers et aussi passionné de musique. Et vous avez fait une rencontre assez improbable il y a 5 ans. On est en 2010, vous sortez de votre atelier à Bagnolet, près de Paris, et là, vous découvrez un tas d'encombrants et ou d'ordures et des documents.
Oui, effectivement, c'était un jour pluvieux. Et je sors de l'atelier, c'était un endroit où il y avait, c'était dans une zone industrielle, du coup il y avait beaucoup de flux comme ça, de marchandises et d'encombrants. Et puis je me mets à regarder un peu plus précisément parce que j'aperçois des documents qui sont des livres, qui sont des cassettes, des bandes magnétiques, des partitions. Et donc assez vite je me rends compte qu'il s'agit d'effets personnels, enfin de documents, d'archives, enfin c'était pas encore des archives à ce moment-là, mais enfin d'effets personnels ayant appartenu à quelqu'un ayant évolué dans la musique, et qui plus est la musique contemporaine, et qui m'intéresse beaucoup depuis longtemps. Et à ce moment-là, ben, il y avait des Roms qui arrivaient, il y avait l'idée de la redistribution de ces encombrants, en fait, hein, qui est une logique qui est normal dans les grandes villes, et dans beaucoup de villes, et de plus en plus. Et du coup, j'ai décidé de m'en emparer, en tout cas de ce que je pouvais prendre à ce moment-là, sans trop savoir ce que c'était. Et très vite, j'ai commencé à les ausculter de manière à comprendre à qui ça avait pu appartenir, et puis voilà, ce qui était en jeu musicalement, ce qui était en jeu esthétiquement avec ces documents-là. Et donc j'ai réalisé, tout d'abord en lisant des lettres, et en regardant des partitions, que voilà, tout ça avait appartenu à un chef d'orchestre et qui avait travaillé à Radio France, qui avait dirigé l'orchestre de chambre de l'ORTF pendant les années 70.
Boris de Vinogradov, pour ne pas le nommer.
C'est ça.
À quel moment vous vous apercevez et comment vous en apercevez que ce monsieur-là, il a ce parcours-là, justement ?
Ben, en fait, j'ai fait une recherche immédiatement sur Internet, mais sur laquelle qui ne donnait pas grand-chose, en fait. Il n'y avait pas énormément d'éléments. Alors après, c'est plutôt en recoupant progressivement des informations, en allant chercher, que j'ai compris qu'il avait fondé un ensemble de musique contemporaine français qui s'appelait l'Ensemble Itinéraire et qui... dont il était un maillon important, puisque lui, il avait un orchestre pour jouer cette musique, en étant chef à la Maison de la Radio. Et donc, ce mouvement musical s'appelait la musique spectrale. Donc, c'était d'ores et déjà une sorte de hasard assez étonnant.
Qu'est-ce que c'est, la musique spectrale ?
La musique spectrale, elle n'est pas forcément évidente à définir, mais c'est les musiciens impliqués dans ce mouvement, dans ce courant musical... c'est des gens comme Gérard Griset, Tristan Muraille, Hugues Dufour, Michael Lévinas, Roger Tessier, enfin en tout cas les fondateurs c'est vraiment eux, et donc Boris de Vinogradov. Et cette musique en fait arrive à un moment où ces musiciens là sont intéressés par plein de styles de musique extra-occidentale, donc les musiques indiennes, japonaise, orientale. Ils sont les héritiers de Messiaen en termes de chromatisme et justement pour ses intérêts sur un exotisme musical. Et c'est aussi les héritiers de toute l'approche plus technologique d'analyse du son qui a été permise par... le groupe de recherche musicale de Pierre Schaeffer et Pierre Henry. Donc en fait, ils ont mélangé ces différents aspects en se concentrant sur des questions de timbre, de tonalité et de comment en fait, il pouvait y avoir un passage qui s'opérait entre le son généré par les machines, les synthétiseurs, et les instruments. Comment, via ce qu'ils ont appelé à un moment la synthèse instrumentale, comment un orchestre pouvait faire le son d'un synthétiseur ou l'inverse. Un synthétiseur pouvait faire le son d'une section de cordes. Et ils ont commencé à réfléchir sur ces questions de seuil, en fait, entre les sons électroniques et ce qui était joué par les instruments. Avec une préoccupation sur le temps et la dilatation, en fait, du temps, qui renvoie justement à ces musiques extra-occidentales et qui étaient dans l'air du temps, puisqu'on est dans les années 70, quoi.
Alors, vous collectez les documents, vous collectez également des bandes magnétiques, des cassettes PETA, et vous dressez ce portrait-là de Boris de Vinogradov, donc vous apprenez qu'il est chef d'orchestre, qu'il appartient à ce mouvement de la musique spectrale, mais c'est un portrait un peu gruyère que vous construisez finalement, parce qu'il manque des parcelles forcément de sa vie, il vous manque des éléments, et là, la question, c'est qu'est-ce que je fais de ça, en fait ? Est-ce que j'essaie de remplir les trous ? Ou est-ce que je laisse ça partiel ?
Oui, c'est ça, c'est-à-dire... j'ai mis un certain temps avant de trouver le biais par lequel aborder ce projet qui devait être un projet plastique comprenant des éléments liés au son, évidemment, mais moi j'ai une approche de plasticien sur le son et effectivement en fait j'avais certaines périodes de sa vie qui étaient très précises dans les archives, le moment où il est mobilisé en Algérie, le moment où il doit passer le conservatoire de percussion, c'est le même moment d'ailleurs. Après, j'ai plus d'éléments. Après, il réapparaît parce que je sais qu'il fait des études avec... il travaille avec Boulez pour devenir chef, alors qu'il avait une formation de percussionniste. Donc ça, on est au milieu des années 60. Ensuite, je sais qu'il travaille à créer des nouvelles séries de concerts avec un autre chef d'orchestre qui s'appelle Diego Masson. Et puis enfin, il apparaît plus clairement au moment où il est à Radio France. Et où il passe des commandes à des compositeurs. Donc voilà. Et après, dans les années 70, progressivement, ça se délite un petit peu. Il est de moins en moins impliqué dans les projets de l'ensemble qu'il a formé avec ces musiciens-là. J'ai appris après, d'ailleurs, par Roger Tessier, qui a été directeur du conservatoire ici à Angers, et un ami proche de ce cher Boris, que, en fait, il avait. Eux avançaient dans l'exigence qu'ils avaient pour jouer leur musique, et que lui n'était pas forcément tout le temps au niveau. Et puis aussi, c'était quelqu'un qui était assez curieux. D'ailleurs, les archives en attestent, enfin, les archives, les documents que j'ai trouvés en attestent, parce qu'il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas, moi, il y a toute la collection des revues de Cousteau. Il y a je ne sais pas combien de volumes d'encyclopédies. Il y a des revues sur la hi-fi. Enfin, c'est assez varié, en fait. Et donc, en fait, il commençait aussi à faire d'autres choses à côté. C'est-à-dire, il a travaillé avec Salvador Dali sur son opéra « Être Dieu ». Il a travaillé avec Jean-Michel Jarre et Maurice Béjart à l'Opéra de Paris. Après, au début des années 80, il se met à faire des choses beaucoup plus proches de l'improvisation et du ciné-concert avec des musiciens plus proches de la scène jazz, des musiques improvisées. Et puis ensuite, vraiment, dans les années 80, il disparaît. Et puis il réapparaît en dirigeant l'orchestre de Jussieu, donc de l'université. Et qui est pas. Et puis j'ai rencontré des gens du chœur de Radio France qui ont travaillé avec lui à ce moment-là. Et c'était pas très gai, quoi. C'était un peu. Il était devenu un peu ostracisé par le milieu. Du coup, il y a une fin un peu triste aussi. Alors voilà, ça fait une espèce de tissu, et justement, oui, un tissu mémoriel, mais très lâche à certains endroits. Alors la question, moi, pour m'en emparer, c'était de. Est-ce que je vais rencontrer des gens qui l'ont connu tout de suite pour comprendre qui c'était, ou est-ce que je prends le parti d'ajouter des éléments de fiction ou d'analyser plutôt par le biais du contexte dans lequel cette musique qu'il a promue est apparue. Et c'est plutôt cette option-là que j'ai choisie dans un premier temps.
Via une première exposition à Bruxelles en 2012.
C'est ça.
Où vous avez misé sur... l'impression, notamment via l'impression d'un livre, enfin l'apparition d'un livre.
Mmh, qui s'est appelé L'oreille interne. Et donc le projet général, je l'ai appelé Spectral Recollection, parce que c'est un terme qui n'est pas forcément français, mais il est très clair en même temps. C'est-à-dire comment on peut retrouver des éléments, enfin recollectionner et rassembler de manière à créer une archive à partir de documents. Parce qu'une archive, c'est il faut la subjectiver en fait. Pour qu'elle devienne une archive et qu'elle dise quelque chose. En fait, il faut avoir une intention de dire quelque chose. Et donc, à l'oreille interne, dans le cadre du festival City Sonic à Bruxelles, il y a eu effectivement un livre dans lequel j'ai mis tous les documents, enfin, pas du tout tous les documents, mais une bonne partie des documents, et que j'ai chapitré en fonction de ce que je voulais raconter à ce moment-là, sur le contexte et l'émergence de ce musicien. Voilà, dans la période musicale dans laquelle il était. Et donc il y a eu ce livre, et puis il y avait beaucoup de sérigraphie, puisque c'est une technique d'impression que j'utilise beaucoup et qui permet l'accumulation par couches et strates d'images ou de trames ou de choses qui vont dénaturer ou modifier l'image initiale. Et du coup, c'était vraiment, oui, cette idée d'impression sur un personnage, sur un contexte, sur une époque, avec les idées de technologie, d'obsolescence, le contexte dans lequel il avait évolué, le lieu, il y avait l'idée de l'unité de lieu de la maison de la radio, où moi, par mon histoire personnelle, j'avais un lien avec la maison de la radio. Il y avait aussi que les lieux où il avait travaillé à la maison de la radio était en train d'être détruit, donc il y avait une sorte de tournant et d'effacement progressif de cette mémoire. Et il s'agissait de retenir et de fixer par les systèmes d'impression, en fait, que ce soit le livre ou les sérigraphies, de figer et de réifier un ensemble de documents qui étaient amenés à disparaître.
Et après Bruxelles, il y a eu une deuxième exposition à Lausanne, et il y a eu tout un pan sonore qu'on va aborder. On va écouter dans un instant un extrait d'une de ces productions sonores. En fait, vous avez confié des archives de Boris de Vinogradov à des musiciens
à Lausanne, en fait. Enfin, ça, je l'ai fait à Bruxelles. Voilà. J'ai donné vraiment des documents à des musiciens intéressés par cette période musicale, en leur donnant une marge de manœuvre totale sur l'interprétation de ces documents. Alors, il y en avait, je leur donnais des bandes magnétiques et des cassettes, l'autre, des vinyles et un texte, une revue de Cousteau, avec une partition sur la mer de Tristan Murail, et à chaque fois c'était des interprétations très libres. Et à Lausanne, en fait, j'ai pris le parti de, à partir des partitions, refaire des partitions, qui sont un mélange entre des fragments et des extraits de parties pour instruments spécifiques pris dans les partitions existantes, que je confrontais à un autre genre musical de la même période. Et du coup, ça a donné lieu à un ensemble de partitions que j'ai produites à partir de ces partitions, et qui ont été interprétées de manière quotidienne dans le temps de l'exposition par des musiciens de l'ensemble intercontemporain de Genève, enfin de différents horizons, mais des musiciens de musique savante, et qui avaient l'intérêt pour moi là-dedans était d'utiliser cette musique savante écrite et de la confronter à une musique plus populaire, allant du krautrock au jazz, au punk, mais des choses qui sont concomitantes en termes de date, et qui est une musique qui n'est pas écrite, et qui pourtant est finalement celle qui reste plus. Et ça, j'avais, grâce à un ami musicologue qui s'appelle David Sanson, qui avait fait un texte dans le livre au moment de Bruxelles qui s'appelait Le temps à l'endroit, il avait déjà confronté ce registre de musique savante qui finalement, qui connaît Hugues Dufour comparé à Claude François? Et finalement, quand on met ces deux éléments l'un face de l'autre, ou enfin en présence, finalement ça donne une idée de la manière dont la musique contemporaine est devenue une forme très... qui possiblement a un problème de désertion d'audience.
Peut-être que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce qu'on va entendre dans un instant, à savoir la création ou l'interprétation, ou je ne sais pas comment vous voulez le définir, de Laurent Brutin.
Oui, alors ça, Laurent Brutin, on a par ailleurs on fait un hommage à Gérard Griset dans un diaporama fait à partir des diapositives que j'ai trouvées. Avec Étienne Bonhomme, un musicien qui fait de l'électronique, et donc Laurent Brutin fait de la clarinette basse. Et c'est un instrument que j'aime beaucoup, qui a une histoire, une présence dans les musiques jazz, musique improvisée, et dans la musique savante qui m'intéresse beaucoup. Et donc cette partition, elle est basée sur la pièce de Gérard Griset qui s'appelle Nout, et sur un morceau d'Herbie Hancock qui s'appelle Rain Dance sur l'album Sextant. Et du coup, Nout, c'est le dieu du passage, de la voûte céleste, en fait, égyptien. Et la pièce de Gérard Griset est extrêmement statique. C'est une sorte de drone, comme ça, une pièce très étale. Et je voulais amener l'élément de la pluie et amener la présence d'Herbie Hancock face à Gérard Griset. C'est juste très bizarre, quoi. Mais je savais que lui, il avait une capacité percussive avec la clarinette basse qui m'intéressait de faire se confronter, en fait.
Ouais, on va écouter tout de suite.
Thank you.
Ce soir dans le sous-marin, on est en compagnie de Julien Sirjac, artiste peintre, plasticien, prof à l'école des Beaux-Arts à Angers et aussi, quelqu'un qui a fait revivre Boris de Vinogradov, dont on est en train de parler, un chef d'orchestre qui a notamment travaillé à Radio France et qui s'est inscrit dans la musique spectrale, ce mouvement des années 60-70 de musique concrète. Julien Sirjac, vous choisissez d'interpréter les archives comme lui, chef d'orchestre, interprétait les compositions. En fait, vous mettez un peu... vous avez le même rôle, en fait.
Bah oui, en fait... le fait de trouver tout ce matériel et donc lié à la musique pose la question de l'interprétation. Lui étant chef, il dirigeait, il interprétait les intentions de compositeurs. Et finalement, cette idée de l'interprétation, elle est très importante parce qu'elle est ce qui permet de s'emparer et de créer à ce moment-là une archive ou un document qui véhicule une histoire. Et que l'interprétation, elle est. Du coup, je la joue à plein d'endroits différents dans la mesure où je donne ces archives à jouer. Moi, je les interprète visuellement, j'en interprète le sens. C'est à tous les endroits qu'il y a. Cette question de l'interprétation se pose, quoi.
Il y a une autre question, évidemment, qui se pose dans votre travail, c'est celle de la mémoire et de l'obsolescence des supports, puisque vous récupérez des bandes magnétiques, vous enregistrez sur des cassettes, mais à Lausanne, vous avez demandé aux musiciens qui ont fait revivre Boris de Vinogradov en son, comme on l'entend, vous leur avez demandé de jouer, d'enregistrer sur des dub plates. Alors, des dub plates, ce sont des supports très fragiles qui permettent par la suite, si on veut, le pressage des vinyles. Cette question de l'obsolescence du support et de l'héritage, elle fait partie intégrante de ce projet.
Ben oui, parce qu'en fait, on est dans une ère où on croule sous les informations et les fichiers et les datas de tous ordres, mais dont on connaît pas la pérennité, en fait. Et dont les niveaux de compression, en fait, permettent des quantités d'informations qui sont nouvelles. Et on sait très bien, enfin, je veux dire, les gens de Google ou de Microsoft même le disent que, voilà, étant donné la vitesse à laquelle les supports qui permettent le stockage évoluent, où les supports des types de fichiers évoluent. On ne sait même pas si dans 10 ans, on n'aura pas déjà muté 3 fois de type de fichiers, si on pourra encore les lire. Du coup, ça pose la question de... Enfin, cette question de la mémoire, elle est extrêmement actuelle. Elle est... On est, d'une certaine manière, si on veut se dire que l'humanité, dans les années 2010-2020, veut laisser des traces, il faut qu'elle organise la question du stockage et la gestion de ces données. Et effectivement, moi, quand j'ai trouvé tous ces documents, toutes ces bandes magnétiques, par exemple, moi, j'avais pas de lecteur de bandes magnétiques, quoi. Je veux dire, il y en avait un peut-être chez moi quand j'étais petit, mais et encore. Ça pose la question, comment j'écoute ça, comment j'accède à cette mémoire, en fait. Donc, comment les stocker, et puis est-ce qu'elle est fermés et oubliés, ou on les a en même temps les technologies, mais il y en a certaines qui sont plus compliquées que d'autres à avoir pour lire tel ou tel type de support d'enregistrement. Et finalement, on est tous maintenant au courant de l'idée de l'obsolescence programmée des différentes technologies avec lesquelles on évolue, puisque elles permettent de renouveler les marchés et par les constructeurs. Là, il y a vraiment une espèce de point central où finalement toutes les technologies d'enregistrement et de radiophonie d'ailleurs, qui avaient dans les années 60-70, sont d'une qualité et d'une robustesse, d'une solidité et d'une précision. Je veux dire, la différence entre une bande magnétique et un fichier MP3, c'est, je sais même pas comment décrire le misérabilisme du fichier MP3. Quoi. C'est comme si on avait très très peu d'informations. En fait, la compression, elle a... Alors que lui et les musiciens de cette époque-là, et les ingénieurs de cette époque-là, étaient dans une réflexion sur ces supports qui étaient... qui est presque le maximum, puisque après on a basculé dans le CD, qui était déjà un format de compression après le vinyle. Et du coup, alors à chaque étape du projet se pose, j'essaie de réfléchir à ces questions de support. Et effectivement, à Bruxelles, c'était une cassette, mais parce que ça m'amusait vraiment qu'il y ait une cassette, et qu'on se pose la question de « j'ai une cassette, comment je l'écoute ?» Finalement, la plupart des gens ne pouvaient l'écouter que dans leur voiture. Et que c'était pas du tout une musique de voiture, enfin quoi, que ça dépend pour qui. Puis ça dépend de la distance et du type de route, on va dire, mais voilà, quand on a une cassette, on se demande déjà comment on va l'écouter, quoi. Mmh. Du coup, ça oblige à se poser cette question-là. Les vinyles, bon, il y a un retour de ce support-là à cause de ces questions de compression, et puis parce qu'il y a une sorte de fétichisme sur l'objet qui fait une espèce de boucle temporelle, au moment où on fait que d'échanger des fichiers, télécharger, payer, rien de payer du tout, aucun droit sur toute cette musique. Finalement, la réapparition du vinyle, elle est assez intéressante, et puis elle correspond aussi à des exigences qui sont, disons, l'envers du misérabilisme d'un fichier MP3. Mais, et puis, à Lausanne, la question a été de comment travailler encore avec un autre support, et en l'occurrence, là, l'idée dans l'exposition était que les musiciens interprétaient les partitions et qu'elles étaient mixées dans la foulée, donc enregistré, mixé et gravé. Sur un dubplate, et les dubplates, c'est des disques qu'on ne fait pas beaucoup d'exemplaires et qui servent juste de matrice. Et du coup, c'est des disques en acétate, c'est pas du vinyle, et qui servent donc de matrice et qui en même temps sont assez fragiles. Mais ils ont ces deux possibilités-là, d'être reproduits, soit de disparaître. Et du coup, encore une fois, à cet endroit-là, avec la technologie, je reste avec les questions de support et d'enregistrement et de gravure et d'impression aussi. On continue sur ces mêmes types de vocabulaire et de registre, sur comment fixer, en fait, soit des images, soit du son. Ça m'intéressait que ça pose, l'objet lui-même pose toujours ces questions de possibilité de disparaître ou d'être pérennisé et multiplié. Parce que la sérigraphie que je pratique beaucoup est une catégorie du multiple, enfin, et l'édition à laquelle je tiens beaucoup, enfin, qui fait partie de ma pratique.
Julien Sirjac, jusqu'où vous allez aller avec Boris de Vinogradov, dont vous partagez la vie depuis 5 ans? Qu'est-ce qui est...
Ouh là là.
Maintenant, qu'est-ce qui est prévu?
En fait, depuis un moment, il y a vraiment les diaporamas sont devenus des... Donc les diaporamas que je fais à partir de... Il prenait beaucoup de photos, et il y a des boîtes très très organisées de tous les endroits où il était en résidence. Et donc les boîtes étaient très organisées, tous les lieux sont notés, sauf qu'en fait, il n'y avait jamais personne sur les photos. Donc c'est très angoissant, quoi. C'est des photos de la fin des années 60 à peu près. Et en fait, si on nettoie pas bien un négatif, ou un négatif de diapositive, en fait, au fur et à mesure du temps, les couleurs vont tourner, et puis des champignons peuvent apparaître, et du coup, ça devient des photographies extrêmement ectoplasmiques, quoi. Du coup, ce côté fantomatique et presque aussi spirit est hyper présent dans ces images, et du coup, j'ai fait un diaporama qui est en Europe, et il a fait une série de photos qui est aux États-Unis, autour des Grands Lacs, et du coup, ça donne deux projets musicaux qui sont des lives. Donc il y en a un pour deux guitares autour des Grands Lacs aux États-Unis, et puis un autre pour clarinette basse et traitement électronique d'après Gérard Griset. Et du coup, ça, c'est des pièces qui vont donner des vinyles et qui sont des lives. On en a fait plusieurs ces derniers mois. Et après, il y a d'autres projets de remix à partir de ce qui a été produit à Lausanne. Finalement, c'est une logique potentiellement infinie, et puis les possibilités d'exploitation. Je voudrais faire un livre. J'ai un livre assez dense, qui comprendrait le premier livre, mais qui l'augmenterait de d'autres points de vue et d'autres auteurs. Et enfin, il y a pas mal de choses possibles encore.
On verra ça par la suite, alors.
Ben ouais.
Vous viendrez nous en reparler. Merci beaucoup, Julien Sirjac, d'avoir été avec nous.
Mais de rien. Merci à vous.
C'était Husbands avec Michel.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Depuis 1994, à Rabelais-sur-Layon, il y avait le festival de Rabelais. Un week-end de la Pentecôte artistique sur le Rabelais-sur-Layon qui s'est arrêté en 2011, laissant Rabelaisiens et Rabelaisiennes bien tristes. Mais les larmes, c'est fini puisqu'arrive CLAP, le CLAP, CLAP pour Culture Locale et Art Pluriel. Bonjour Sébastien Rousselet.
Bonjour.
Vous êtes co-président du CLAP. Est-ce qu'on peut d'abord rappeler pourquoi est-ce que le festival de Rabelais, qui existait depuis 1994, donc il s'est achevé en 2011?
Oui, il a été victime de son succès en fait.
Festival qui s'arrête parce qu'il est victime de son succès,
ouais,
c'est possible alors.
C'est étrange, c'est même du luxe aujourd'hui. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il y avait énormément d'affluence. Et c'était un festival qui se déroulait à Rabelais, donc c'est un village rural qui fait 700 habitants, c'est un petit village. Et comme c'était gratuit et que c'était, ça avait une renommée quand même historique parce que ça a duré 17 ans, je crois. Du coup, au bout d'un moment, il y avait tellement de gens à venir, il y a eu des fois un pic jusqu'à 15 000 personnes. Donc sur deux jours, c'est assez considérable. Du coup, il y avait un peu parfois un débordement, parfois des débordements un petit peu qu'on ne souhaitait pas, et puis un manque aussi de bras parce que ça fonctionnait beaucoup grâce aux bénévolat puisque le festival était gratuit. Donc il y a eu un petit peu un découragement et une crainte que de se laisser déborder par cette affluence là. Donc le festival a préféré s'arrêter à un moment où ça allait bien avant que ça se passe mal. Voilà.
Et CLAP, on peut dire que c'est un enfant de ce festival.
Ou son petit frère, enfin.
Son petit frère,
ouais, ouais. C'est ça. Ouais.
La jeunesse de CLAP, c'est quoi alors? Ça, c'est... L'idée est germée quand
En fait, elle germait dès le festival, en fait, je pense. C'est-à-dire que le festival, c'est un peu... certaines personnes se sont accrochées pour que le festival continue. Mais il cherchait un petit peu une échappatoire, ou disons une autre forme à donner. Et puis en fait, il fallait, des fois il faut changer l'équipe pour trouver d'autres idées, il faut un peu de sang neuf, c'est normal. Donc le festival s'est arrêté, il a fallu du coup retrouver des gens qui s'intéressaient, qui étaient motivés pour redonner un fond et une forme à cet événement, et puis ensuite prendre le temps de tout mettre en place, parce que ça fait plus d'un an qu'on est sur l'histoire.
Alors CLAP, ce sont deux choses, c'est une semaine et une journée. Alors c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais on va entrer dans les détails. En fait, du 18 au 23 mai, donc jusqu'à la Pentecôte, vous permettez à deux compagnies d'obtenir une résidence artistique. L'idée, c'est que les deux compagnies dialoguent, et pour cette discussion, vous avez choisi Camille Pécha, qui est une circassienne, et Christophe Pio Electroplume, un batteur percussionniste ornithologue. Racontez-nous qui sont ces deux personnages, et enfin, où est-ce que vous avez trouvé ces deux compagnies, et puis qu'est-ce qui va se passer?
Alors, Christophe Pio, donc, dont le projet s'appelle Electroplume, il est nantais actuellement, il est originaire de Cholet, c'est une connaissance de quelques personnes qui sont membres du CA et de la programmation du CLAP. Et Camille Pécha, elle nous a été conseillée par Charlotte de la Brotec, qui est une circassienne originaire d'Angers, qui devait à l'origine participer au CLAP, à cette résidence, finalement qui n'a pas pu parce qu'elle avait un agenda très chargé. Du coup, elle nous a conseillé Camille, qui est une élève d'une école de cirque aux Pays-Bas, qui fait donc de la sangle aérienne. Et on trouvait la réunion des deux intéressante parce que Christophe, effectivement, propose... il enregistre des chants d'oiseaux, en fait, il les sample et après, il les accompagne aux percussions. C'est la marque de fabrique d'Electroplume. Et Camille, étant dans les airs, on trouvait ça intéressant, ça figure un peu les oiseaux, on se disait qu'il y avait quelque chose à faire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait rien encore. Ils vont se rencontrer, ils vont faire quelque chose. On va les guider s'ils ont besoin de nous, mais je pense qu'ils se débrouilleront très bien tout seuls. Et ils nous présenteront le fruit de leur rencontre le 23 mai, donc la journée du CLAP.
La journée du CLAP, le 23 mai, où va se passer plein de choses. On va, si vous voulez bien, détailler un peu la programmation de cette journée. Il y aura la compagnie Pacapaz. Sur le programme, il est écrit que c'est l'histoire d'un magicien mentaliste qui rencontre une jeune femme.
Oui, c'est ça. Alors, je pense que c'est assez décalé. On n'a pas encore... On connaît un peu leur duo, on les a déjà vus dans d'autres conditions, plutôt sous forme improvisée. Mais c'est un magicien, un véritable magicien, qui fait effectivement du mentalisme et qui est très fort, et qui est accompagné par un trublion qui est une erreur totale de casting, mais qui donne à leur duo un aspect très savoureux.
Il y aura également le bar à mômes. Alors c'est un vrai bar, mais en plus petit, dans lequel on sert de l'eau sèche.
C'est ça.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Alors ça, c'est à découvrir, c'est assez délirant aussi, c'est on va dire du spectacle de rue, c'est donc une compagnie angevine, et qui propose un spectacle assez décalé, a priori pour les enfants, mais en fait il y a beaucoup de second degré, et tout le monde peut apprécier ce spectacle.
Comme souvent dans les arts de la rue d'ailleurs, on se met au diapason pour tous les publics. Hot Milk Breakers, et là on se dirige plutôt vers Cholet avec des breakers.
C'est ça, c'est de la danse hip-hop qui nous vient de Cholet. Ils vont faire trois passages dans l'après-midi. Eux, ils seront aussi au bord du Layon. On va leur installer un parquet et sous le chapiteau également qui sera monté pour qu'ils puissent nous présenter un petit peu ce qu'ils font, quoi.
Il y aura également la note violette. Alors, le collectif s'appelle Jamais trop d'art. C'est un spectacle bien timbré. Voilà donc un collectif qui aime les jeux de mots.
Ouais. Elles sont totalement déjantées. C'est un quatuor de nanas qui chantent super bien, qui ont un répertoire assez large et qui n'hésitent pas à péter les plombs sur scène. Et ça, ça n'a pas raté non plus.
En termes de concert également, il y aura Daniel Warreau. Alors, lui, on le présente, mais on ne le présente plus vraiment. En fait, c'est un artiste qui vient de La Réunion. Et qui a un petit peu remis en lumière le Maloya.
Exactement.
Comment est-ce que vous l'avez eu l'idée de le programmer au CLAP?
On cherchait une tête d'affiche, en fait, parce que le CLAP, en fait, a changé un petit peu dans sa forme, puisque à l'origine, le festival, c'était gratuit, c'était deux jours. Maintenant, c'est une journée et c'est payant.
C'est payant, oui.
Bon, c'est une somme modique. Hein.
C'est 8 € pour les adultes et 2 € pour les enfants.
C'est ça. De 4 à 12 ans, et au-dessous de 4 ans, c'est gratuit. Donc, on tenait quand même, maintenant on fait une entrée payante, à donner une plus-value à cet événement. Et cette plus-value, entre autres, on a estimé que ça pouvait être une tête d'affiche. Et on a pensé à Daniel Warreau parce que ça nous semble intéressant, accessible à tout public, En même temps, il a un vrai public, il y a vraiment des gens qui l'attendent. Il a peu de dates en ce moment dans la région. Donc pour toutes ces raisons, on a pensé à lui, quoi, tout simplement.
Autre nom qui partage l'affiche, NMB Brass Band Orchestra, c'est de un orchestre d'Afrobeat, pardon.
C'est ça.
Une rencontre entre deux univers, l'univers ouest africain et un univers plutôt New Orleans.
Ouais, c'est ça, c'est un brass band en fait, donc énormément de cuivre, mais il y a quand même une grosse influence Afrobeat. Donc pour ceux qui connaissent Fela par exemple, on est vraiment là-dedans, donc c'est très très dynamique. Et en plus au chant, ils viennent avec Sir Jean, qui était connu il y a quelques années dans Mayday Show, donc qui est un chanteur totalement survolté.
Autre nom, DJ Alou fait un quiz musical pour conclure.
Alors ça, c'est la charcuterie musicale. C'est pareil, on aime bien ce qui est décalé, un peu fou dingue. La charcuterie musicale, c'est donc le projet DJ Ralouf, qui est un DJ tourangeau, et qui propose un quiz. Donc il y a des buzzers, et il fait du blind test, et il faut deviner un peu quel est son mix. Voilà.
Un blind test géant, quoi, où tout le monde peut participer.
C'est ça. Oh, peut-être pas tout le monde, mais plusieurs personnes en tout cas. On va essayer de faire un gros truc et qu'on puisse être nombreux à participer à ce moment-là.
Il y a également une exposition qui aura lieu. Pendant un clap ?
Ouais, et le 13 mai, le vernissage est le 13 mai, donc mercredi de la semaine prochaine.
Une expo d'Antoine Biro, est-ce que vous pouvez nous le présenter ?
Alors Antoine, c'est un artiste un peu multiforme puisqu'il est sculpteur. Là, c'est donc ses sculptures qu'on va présenter. Il a des personnages qui sont des sculptures mécaniques en fait qui s'actionnent. Il avait son exposition d'ailleurs qui était au Théâtre d'Angers il n'y a pas très longtemps. Et en fait, c'est des espèces de pantins qui sont dans des actions très répétitives. Donc ça figure un petit peu un aspect un peu aliénant de notre société, le fait de répéter tout le temps les mêmes choses. Mais en même temps, c'est très poétique et assez drôle. Il n'y a rien de lourd ou de glauque ou de pesant. Mais c'est assez ironique et ça raconte plein de choses sur ce qu'on fait sur notre monde, en fait. Ça parle du mythe de Sisyphe, enfin, de plein de choses comme ça. Et Antoine, il habite Rochefort. Et il est aussi musicien. Il a tout un tas de cordes à son arc. Et donc, son exposition aura lieu du 13 mai au 7 juin prochain à l'espace du Mail de Rabelais. Donc, qui jouxte le village d'artistes. Et c'est un partenariat avec le village d'artistes.
Tout à l'heure, vous évoquiez les bénévoles, l'importance des bénévoles pour faire vivre un festival. Est-ce que pour le CLAP, c'est la même chose ? C'est le même défi, c'est-à-dire mobiliser du monde, les Rabelaisiens, pour justement faire vivre cette journée ?
Ah oui, on compte beaucoup sur le village, mais on est très aidé par le village, on est très aidé par la municipalité qui nous soutient techniquement, financièrement et moralement. Et donc on a déjà une équipe bien formée, bien constituée de bénévoles. On en attend encore, on en a toujours besoin. Mais effectivement, on fonctionne de façon moindre que le festival parce que c'est pas non plus la même échelle. Mais quand même, on a un besoin assez conséquent de forces vives.
C'est toujours possible de venir vous aider pour le CLAP ?
Et comment ? Bien sûr. Oui, bien sûr. Il s'agit juste de nous contacter via la mairie de Rabelais.
Est-ce que les Rabelaisiens, les Rabelaisiennes, je le prononce bien ou pas ? Oui, c'est ça.
C'est parfait. L'accent est très bon.
Vous remercie en quelque sorte de redonner un d'énergie à ce village pendant le mois de mai comme ça. Est-ce que ça leur a manqué ce festival ? Est-ce qu'ils sont contents de vous voir là ?
Globalement oui, les gens sont très contents. Après je pense qu'on est quand même attendu au tournant parce que le festival justement avait rencontré des écueils, les écueils que j'évoquais tout à l'heure qui sont l'affluence massive, les débordements, les mecs bourrés, enfin et puis la peur d'être totalement débordé par cette foule là quoi. Donc je pense que il y a aussi une catégorie de la population à juste titre, ça se comprend, qui attend un petit peu de voir ce que ça va donner quoi. Parce qu'il y a quand même le village qui est... Le site est fermé, enfin, c'est toute une organisation qui peut être un petit peu contraignante. Donc, mais globalement, on nous envoie de l'énergie positive et encourageante.
Il est amené à se reconduire l'année prochaine. Pour l'instant, c'est, on voit comment ça se passe cette année pour la première fois, ou alors il y a déjà l'idée de l'année prochaine.
On espère pouvoir recommencer l'année prochaine, faire une deuxième édition, parce que c'est beaucoup de temps et d'énergie à mettre en place. On se dit qu'une deuxième fois, ça commencerait à rouler mieux, qu'il y a plein de choses, on gagnerait du temps, on n'aurait pas besoin d'y passer autant de temps, parce que là, on a vraiment créé le fond du projet, quoi, qui était le thème de la rencontre et puis la mise en place de la résidence, etc. Mais on espère effectivement faire une deuxième édition, mais on a la tête bien dans le guidon pour cette année, on verra déjà comment ça se passe.
On rappelle les dates, donc la date du CLAP, c'est le 23 mai, et l'exposition est à voir à partir du 13 mai, donc mercredi prochain.
Exactement.
J'ai oublié des infos pratiques ?
Non, disons que rapidement, je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais il y a aussi deux soirées, deux temps forts durant la semaine du CLAP sous chapiteau. C'est le mardi 19 et le jeudi 21, où en fait il y a deux soirées spectacles où on fait venir un auteur, Poison d'Avril, qui est slammer, mais qui là vient en tant qu'auteur, et puis qui va échanger sur son travail. Ensuite, il y a une lecture de texte avec le comédien Dominique Huette, qui va nous lire des textes du patrimoine de son choix. Il est accompagné par un musicien, c'est une soirée partenariat avec la bibliothèque de Rabelais. Et ensuite, le jeudi soir, on fait une spéciale dédicace au village de Rabelais. Donc on a trouvé des archives, des images d'archives qu'on a montées, enfin, on a fait appel à un vidéaste, monteur qui s'appelle Corentin Luis, qui est de Cholet, et qui a fait un montage d'une trentaine de minutes qu'on va projeter sur écran géant, sous chapiteau. Et ce film sera accompagné par le clavier Nino Vella, donc comme à l'époque du cinéma muet. Et ensuite, il y a un temps d'échange avec les anciens et une bouffe, tous ensemble, on amène notre pique-nique. Et ensuite, il y a un comédien qui s'appelle Jérôme Rouget, qui est de la compagnie La Martingale de Parthenay, qui va venir faire une enquête pendant deux jours, le mercredi et jeudi, sur Rabelais. Et le soir, il va nous faire un portrait de village, un portrait de Rabelais, qui sera le fruit de son enquête. On ne sait pas du tout ce qu'il va dire, et c'est ça qui est bon.
Big up au Rabelaisien, quoi.
Voilà.
Merci beaucoup Sébastien Rousselet d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et maintenant on va écouter Daniel Waro. Hein,
avec plaisir.
Bat la main.
Bat la main dans ces bonnes moments. Bat la main dans ces. Bat la main dans ces bonnes moments. Enfants les sauver. Bat la main dans ces bonnes moments. Bat la main dans ces. Bat la main dans ces bonnes moments. Enfants les sauver.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
La perne de ce soir, ça se passe au quai, ou plutôt au CNDC. Le chorégraphe Jean-Claude Galotta, qui se voit consacrer un hommage jusqu'au 15 mai, revisite le Sacre du Printemps, c'est à 20h30. On termine cette émission avec l'éternelle bulle sonore. Hier soir, dans Pas de panique, Psyker et Clavette nous ont fait une spéciale musique de jeux vidéo, portrait d'une compositrice japonaise.
C'est une compositrice japonaise de musique de jeux vidéo, qui fait principalement du piano. C'est le genre de compositeur qui est tombé dedans quand elle était petite, puisqu'elle bosse dans la musique de jeux vidéo depuis qu'elle est diplômée de la faculté de musique d'Osaka, en 88. Elle n'est pas toute jeune, mais c'est vraiment une des compositrices les plus célèbres dans le monde de la musique de jeux vidéo. En tout cas, c'est ce qui est dit sur Dieu Wikipédia. Sa carrière est énorme. Elle a bossé chez Capcom, où elle a participé à une quinzaine de jeux, dont Street Fighter 2, par exemple. Jusqu'à 2002, elle a travaillé chez Square Enix, où elle a composé pas mal de morceaux également. Mais le travail pour lequel Yoko Shimomura a le plus brillé est sans nul doute la série des Kingdom Hearts.
Kingdom Hearts, on peut peut-être faire une petite piqûre de rappel autour de cette saga, série. Je sais plus combien il y a d'épisodes d'ailleurs dans ce jeu. Deux, je dirais.
Ils ont deux principaux, et je crois qu'ils ont fait d'autres jeux sur des consoles un peu plus petites, genre la DS, ce genre de choses. En tout cas, c'est un jeu qui est connu car il mélange l'univers de Final Fantasy avec celui de Disney, le tout dans une ambiance, je dirais, poétique et majestueuse.
Le podcast de Pas de panique est à retrouver sur le www.radiocampusangers.com. C'est la fin de ce sous-marin. Merci à Pierre pour la réalisation. Pardon. On se retrouve lundi à 19h. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers. Allez, bisous.